Voilà, ce thème-là de vie perso, vie pro, quel équilibre? Peut-être en forme d'introduction, de rappeler que les frontières sont poreuses entre le travail et la vie personnelle. En 2015, une étude montre que 81% des cadres règlent des questions personnelles au bureau, comme par exemple imprimer les feuilles de prière spi dans la photocopieuse du bureau, pour prendre un exemple. Hein, et donc, c'est des. Mais aussi, une étude montre que ces cadres sont plutôt des digital natives, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec la dimension digitale, etc. C'est plutôt des cadres, des freelancers, des télétravailleurs. Et une autre étude montre que 69% des cadres travaillent chez eux le soir, 40% le week-end, 27% dans les vacances. 3 salariés sur 4 consultent leur mail ou répondent à des appels en dehors du travail. Pour 22%, ne pas répondre aux mails veut dire une peur d'être jugé de façon négative. Pour 18%, c'est une manière de se rassurer que de répondre aux mails ou aux appels hors des temps du boulot. Donc ça, c'est quelques pourcentages qui vous font dire que donc cette porosité entre la partie du travail et la partie personnelle, mais aussi cette présence de l'un dans l'autre, etc., ce manque de clarté qui fait parfois que, pour des questions, on le verra, de manque de confiance, ou manque de confiance en soi, ou début dans la vie professionnelle, je ne sais pas si certains vraiment débutent dans la vie pro, eh bien le fait de se rassurer, le fait d'être bien vu, le fait d'être valorisé, fait que, et ça c'est assez français, on va répondre en dehors des heures du travail, on va être joignable H24. Hein. Ou alors on reste, ça rencontre autre chose, on reste dans le bureau longtemps. Hein, ce qu'on appelle le présentialisme, qui est quelque chose d'assez franco-français, hein, qu'on ne voit pas dans d'autres pays européens. Hein, en fait, on est bien vu dans certaines maisons, dans certaines entreprises, si on reste jusqu'à 20h, 21h, c'est pareil. Si tu pars à 19h, on te dit bon après-midi, par exemple. Bon, donc du coup, ça pose une vraie question de trouver un équilibre, parce que si dans ma vie pro, il y a du parti perso, je réserve mes billets de train, je passe des coups de fil, je réponds à des textos de maman qui m'appelle pour la troisième fois, si j'ai bien acheté le pain, etc., voilà, ou je sais pas quoi, et qu'ensuite, à la maison, je réponds à des mails pro, c'est pas facile de faire la balance et comment trouver une équilibre dans le sens équilibre, avoir une maturité. Comment avoir une maturité dans son rapport au travail et dans son rapport à la vie professionnelle? Je parlerai plus de maturité peut-être que d'équilibre. Les raisons d'un manque de maturité ou les raisons d'un déséquilibre. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, des raisons technologiques. Je les ai évoquées rapidement. C'est donc les digital natives qui sont beaucoup plus concernés. Réseau technologique, d'emporter son ordi pro ou son téléphone pro chez soi est un moyen pour l'employeur de joindre H24 le salarié. Hein, le fait d'avoir accès à ses mails, le fait de répondre, voir qui nous a appelés, etc., etc. Quand on vous donne un téléphone pro, quand on vous donne un ordi pro, prenez conscience que ce n'est pas juste un acte caritatif. Hein, c'est aussi derrière, vous êtes joignable. Vous êtes joignable, vous trouvez un Wi-Fi, vous êtes joignable parce que surtout si vous devez bouger dans votre boulot, etc., bon, forcément il faut être joignable. Donc la question technologique, l'hyperconnectivité, l'hyperconnexion, fait que c'est difficile de trouver une maturité dans cette relation travail-vie personnelle. Hein, parce que le passage de l'un à l'autre est d'autant plus facilité, ce qui n'était pas le cas avant l'époque Internet. C'était beaucoup plus difficile de travailler, par exemple, de chez soi, ou alors on apportait les dossiers, les gros dossiers, etc., et on travaillait, etc. Mais parfois, on ne pouvait pas sortir les dossiers. Bon, voilà. Donc, du coup, ces questions-là. Maintenant, ça n'a pas que des désavantages, cette hyperconnectivité, parce que ça permet aussi Hein, je pense à des mères de famille qui me disent, vous savez que la maman a, surtout qu'avec des jeunes enfants, a double journée, hein, que ce soit la vie professionnelle, mais aussi la vie familiale, etc. Mais elles me disent, du coup, je peux aussi, après 21h30, je ne sais plus, partir à 18h, hein, dans les sociétés qui sont baby-friendly. Donc, je peux partir à 18h sans me faire regarder avec des regards, des yeux en forme de mitraillette, voilà. J'ai pu partir tôt et ensuite je récupère. Donc, je trouve que c'est pas, n'ayons pas un regard négatif sur ces nouvelles technologies. C'est juste qu'il faut avoir une maturité. C'est juste qu'il faut avoir essayer de trouver au niveau du curseur où est-ce que ça vous semble le plus adapté, hein, de mettre ce lien entre les deux. Ensuite, il y a des raisons. Alors, il y a eu, peut-être vous avez été au courant, en 2017, le droit à la déconnexion dans les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, il y a eu un droit à la déconnexion, c'est-à-dire que si on ne répond pas en dehors des heures, une fois quitté le travail, le bureau, etc., ou l'usine, ou quoi qu'est-ce, ben, du coup, on n'est pas tenu de répondre aux mails ou tenu de répondre aux appels, etc., aux SMS. Mais plus que des raisons technologiques, la raison de la difficulté d'harmoniser les choses, c'est beaucoup du côté de la psychologie qu'il faut le voir. La peur d'être jugé, d'être mal vu, la peur, de pas avoir assez de valorisation. Derrière ça, c'est une difficulté à gérer la culpabilité. Et ça n'a pas échappé à certaines entreprises. Et soyez très attentifs, j'avais fait un topo, je ne vais pas le reprendre complètement, mais sur le burn-out et sur les manipulateurs, c'est sur le site de SPNSP. Et du coup, soyez attentifs quand on vous culpabilise outre mesure. C'est-à-dire quand vous voyez un manager, un hiérarchique qui rentre dans une forme de culpabilité, qui rentre dans une forme... Dites-vous que vous êtes potentiellement en face de quelqu'un qui veut vous manipuler. Et c'est vrai que quand on débute dans la vie professionnelle, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans les étapes de vie professionnelle, parce que c'est 25-35 pour SPNSP, donc voilà, donc si sur 35, on suppose que vous avez à peu près 10 ans, mais si vous avez 27, comme Donatien, 27 ans, 28, etc., bon, vous êtes dans les débuts de la vie professionnelle, vous êtes plus malléable et plus sujet à la culpabilisation, parce que vous n'avez pas le recul, précisément, de l'expérience. C'est le début, donc vous voulez donner votre maximum, et c'est bien naturel. Et voilà, je vous invite à être attentif quand quelqu'un, et c'est vrai dans la vie pro, mais c'est vrai dans la vie perso, vous culpabilise alors que vraiment en conscience, alors c'est là où c'est pas facile, parce que, mais peut-être de voir avec d'autres collègues, etc., mais en conscience, vous avez fait le travail qui vous a été demandé, vous n'avez rien à vous reprocher, et pourtant, vous voyez quelqu'un qui appuie sur ce bouton de la culpabilité. Alors là, je crois qu'il y a un warning qui s'allume, voilà, et c'est vrai que c'est une des raisons, les raisons psychologiques sont certainement les raisons les plus fortes qui motivent le manque d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et singulièrement la culpabilité, la peur d'être mal vu, pas avoir assez confiance en soi. Tout ça, c'est un peu dit, c'est la même chose, mais dit de la même manière. Du coup, comme je n'ai pas très confiance en moi, je fais même plus que ce qui m'est demandé. Comme ça, je suis valorisé, je suis bien vu, je suis dans les petits papiers de mon N+1, etc. Hein, donc, mais aussi, et ça peut être une autre raison psychologique, qui est tout à fait d'un autre ordre, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est-à-dire, c'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. Pour moi, ça c'est une question personnelle. Et interrogez-vous, est-ce que vous êtes aussi perfectionniste dans d'autres réalités ? Il faut toujours... Non, il y a encore à faire. Qui fait que vous passez un temps au travail, mais qui n'est pas demandé par la hiérarchie ou par la culture d'entreprise ? C'est juste vous qui vous l'imposez, hein, parce que vous estimez qu'il faut encore faire ceci, etc. Parce que vous avez de la conscience professionnelle, et c'est bien, mais le perfectionnisme, comme tous les ismes, il y a un côté excessif. il y a un côté idolâtrique, c'est-à-dire que on met à la place de Dieu quelque chose ou quelqu'un. Là, on met à la place de Dieu la réalisation, l'idéal de perfection que pourrait être tel dossier ou tel travail, etc., etc. Donc, je pense que c'est intéressant. Ensuite, une autre réalité psychologique qui peut aussi vous jouer des tours et vous empêcher de mettre peut-être des limites, hein, c'est justement la peur de dire non. La peur de dire non, alors vous savez, et ces peurs-là, tous ces aspects psychologiques, ils se rejouent aussi dans la vie perso. C'est pas simplement dans la vie pro. Dans la vie perso aussi, vous pouvez avoir cette difficulté dans la confiance en soi, cette difficulté à mettre les limites. Et vous savez que dire non, c'est dire je. Et dire je, c'est dire non. Et donc, le fait de dire non, écoutez, non, ce ne sera pas possible. On vous rajoute encore sur la pile, votre pile, encore un énième dossier. On vous remonte encore les objectifs de je ne sais pas combien. Bon, le fait de dire non, c'est dire je. Hein, donc, le fait de ne pas poser les limites. Mais peut-être aussi parce que dans votre vie perso, vous avez de la difficulté à poser les limites. À poser les limites avec les parents, par exemple, poser les limites avec votre, si vous êtes en couple avec votre partenaire, à poser les limites avec vos amis. Voilà, vous êtes facilement influençable, facilement culpabilisable, et donc du coup, vous allez dans le sens de celui qui a parlé en dernier. Donc je trouve que c'est intéressant d'être attentif à ça, de cette question d'accueil des limites. Au fond, derrière ça, il y a une vertu chrétienne très, très puissante, qui est l'humilité. Accepter de mettre des limites, c'est sortir de la toute-puissance. C'est sortir que je peux tout. Et donc c'est accueillir une certaine imperfection. Tout en faisant mon maximum, j'accueille une certaine imperfection. Et je pense que c'est quelque chose qui est... voilà. Et encore une fois... Moi, comme ça, je me rappelle l'exemple d'un patron, etc. Il disait, si la personne reste au-delà de 18 heures, c'est qu'elle n'est pas faite pour ce travail. C'est-à-dire qu'il y a aussi certains qui raisonnent comme ça, comme chef d'entreprise, etc. Je vous donne du travail, il me semble que ce travail doit être réalisé en tant de temps. Hein, et voilà, Mais du coup, le fait de mettre des limites, c'est aussi un questionnement. Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que ce travail est fait pour moi? Au fond, l'équilibre vie pro-vie perso vous questionne sur vos talents et sur la qualité de du travail. Et est-ce que ce travail-là est vraiment, vous est destiné, quoi? Vous savez, être le lieu d'épanouissement des talents et de vos charismes, des grâces que vous avez reçues. Hein. Donc, la question de l'humilité comme accueil des limites, etc., je pense que c'est vraiment au cœur de toute la vie chrétienne, mais au cœur de toute la vie en général, pas seulement chrétienne, de toute la vie, accepter de dire ben, jusque-là, c'est bon, après, je ne peux plus. Donc, des raisons. Ensuite, autre raison psychologique qui est aussi fait écho aux autres, etc., mais qui dit d'une autre manière, peut-être ça vous parlera plus, etc., le désir d'être valorisé. Vivre dans le regard des autres, le désir de plaire. Le désir de plaire est une plaie. C'est-à-dire que vraiment, ça c'est, il faut vous... Et c'est là aussi la vie spirituelle peut vous aider grandement à prendre du recul et à prendre de la distance. Vous n'êtes pas ce que vous êtes dans le regard de vos collègues ou dans le regard de votre hiérarchique. Vous êtes ce que vous êtes d'abord sous le regard du Seigneur. Et donc, d'avoir, et c'est vrai, et encore une fois, ça peut aussi être ce désir de plaire dans la vie amoureuse, le désir de plaire dans la vie amicale, etc. C'est parce qu'on est une unité. Donc, ce que vous vivez au travail, c'est intéressant. Ce que vous vivez au travail, dites, c'est peut-être quelque chose qui, et certainement, ailleurs se manifeste aussi. Ça se manifeste dans ma vie amoureuse, amicale, familiale, etc., associative, si j'en ai une, parce qu'on est une unité. Donc, ce désir d'être valorisé, ce désir de plaire, de dépendre du regard des autres, dépendre de ce que l'on va dire de moi, des critiques, etc., etc. Alors que c'est, je veux dire, le commun. C'est le commun de la vie. Je veux dire, vous faites quelque chose, forcément vous êtes critiqué. Mais là où la vie chrétienne est un vrai plus, c'est que vous pouvez acquérir une distance par rapport à ces critiques. Honnêtement, dans votre examen de conscience face au Seigneur, eh bien, vous dites, voilà, j'ai fait honnêtement ce qui était possible. Hein, et donc, et puis vous pouvez éventuellement demander conseil à d'autres qui sont dans la même profession pour dire, mais est-ce que ça te paraît bien, est-ce que ça te paraît mal, etc. Parce que peut-être on peut être trop indulgent aussi avec soi-même, mais on est parfois aussi trop exigeant avec soi-même. Et c'est aussi une forme d'éducation. Hein, ce perfectionnisme, cette barre haute qui fait que c'est jamais assez bien. Donc, je trouve ça intéressant, au fond, le rapport pro-perso vous fait grandir dans l'humilité, peut être un vrai lieu de croissance spirituelle. Et puis, une autre raison de ce hiatus entre les deux, c'est parfois dû au travail lui-même. Je pense à un travail qui est en même temps une vocation. Des travails vocation, comme avec des dérives sacerdotales. Et quand je dérive sacerdotales, je ne parle pas que des prêtres. Évidemment, tout ce qui est du domaine du soin. Hein, médecins, infirmières, tout le personnel paramédical, etc. Tout ce qui est domaine de l'enseignement. Tout ce qui est du domaine du social. Oui, c'est des métiers vocation. Tout ce qui est l'avocat, par exemple, l'avocature, c'est un métier vocation. Parce que donc il peut y avoir ce qu'on appelle des dérives sacerdotales, parce que par définition, le prêtre a une vocation, bon, c'est pas un métier vocation, mais se croire un peu sauveur. Vous voyez, ça peut être aussi le danger pour le prêtre, ça c'est, même si vous n'êtes pas directement concerné, mais dans la prêtrise, on est assez attentif à dire, voilà, est-ce qu'on va pas est-ce que le prêtre se réserve aussi un temps personnel, hein, est-ce qu'il se réserve un temps off? Ou est-ce que, parce que tout le temps sollicité, il se sent valorisé d'aller au-devant de la veuve et de l'orphelin? Oui, donc, mais ça s'applique à d'autres métiers qui ne sont pas uniquement liés au sacerdoce, hein, qui sont des métiers qui sont des métiers vocation. Militaire, par exemple, toute la sécurité, les forces de l'ordre, etc. Là où il y a des très grands enjeux, il y a une très grosse valeur ajoutée en termes de sens. Vous voyez, ça c'est des gros enjeux. C'est là aussi, petite parenthèse, c'est là aussi où il y a le plus de risques de burn-out. C'est dans ces métiers vocation. Parce que justement, on n'a jamais fini de soigner, on n'a jamais fini d'enseigner, on n'a jamais fini de sécuriser les citoyens, etc. Donc, et si j'en faisais un petit peu plus, et si ceci, et si cela. Hein, donc, là aussi, je pense que l'humilité, l'accueil de sa limite, va être la réponse à amener. Tant comme prêtre que comme pour tout laïc qui rentre dans ce style de métier, la vie spirituelle, avec l'accueil de l'humilité, est certainement une réponse, en tout cas un chemin, pour dire, voilà, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le sauveur, je ne suis pas, voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Ou alors, les métiers vocation, ou alors ceux qui sont en responsabilité, qui ont leur propre entreprise. Par exemple, j'ai vu, 60% des patrons des toutes petites entreprises ne prennent pas de vacances. Tous ceux qui sont patrons d'entreprise, artisans, par exemple, commerçants, qui viennent de lancer une start-up. Vous voyez, le monde de la start-up, par exemple, c'est un monde, il faut avoir les yeux bien ouverts. Surtout quand on est jeune. Parce que c'est un monde que de jeunes, déjà, pas de base. Et tout est fait pour ne pas faire la distinguo entre perso et pro, parce que c'est l'hyperconnexion par définition, parce que ces start-up forcément sont liées au digital, etc. Donc soyez attentifs. Et puis parce qu'on peut, il y a une forme d'entraînement, vous voyez, une forme de entre soi, entre collègues. Il y a un esprit start-up, hein, très particulier, qu'il n'y a pas du tout dans les grands groupes, ou à fortiori chez un commerçant, un artisan, etc. Et qui peut conduire à une certaine dérive et à certains excès dans la vie professionnelle. Et puis il y a dû au travail, autre point, c'est la charge mentale. C'est-à-dire la charge mentale, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à se déconnecter intérieurement de la vie, de leur travail. Ils portent leur travail, ils n'arrivent pas à couper, hein, ce qu'on appelle la charge mentale. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi intéressant de se faire parfois aider professionnellement par quelqu'un qui vous aide à remettre ça et à redéposer ça. Autre point, autre partie, après les raisons, c'est les symptômes. Les symptômes d'un déséquilibre. Le symptôme d'un déséquilibre, ça peut être d'abord le manque de vie intérieure, le manque de repos, de trouver un lieu qui refasse vos forces. Parce que, c'est là un signe que la maturité n'est pas au rendez-vous. C'est quand vous trouvez des formes à ce stress que vous avez dans le monde professionnel, vous trouvez des formes de compensation, mais qui ne sont pas, adéquates, quoi, qui peuvent même tourner à une forme de dépendance. Je pense évidemment l'alcool, la drogue, drogue légère ou drogue lourde, etc. La sexualité, qui sont par définition, ou la nourriture, qui sont des lieux de détente du corps. Et donc, quand ce n'est pas l'entreprise elle-même qui organise ces after work, organise ces séminaires sans les conjoints, etc., où on se lâche pour... Voilà, c'est... Parce que, vous voyez, c'est cet effet de... à la fois, on vous stresse, etc., et à la fois, on vous organise des choses, vous vous lâchez au niveau de la boisson, de la nourriture, de la sexualité, etc., de la drogue, évidemment, qui est... Bon, oui, on vous offre et le stress et le remède au stress. Là, ça c'est clair que c'est pas bon. Parce que c'est vraiment le hamster dans la roue. Le hamster dans la roue, c'est vraiment... Vous tendez l'élastique et on vous donne... Et vous retendez l'élastique. Voilà. Ça va pas. Dites-vous que si vous êtes arrivé là et que vous sentez que vous pouvez être rentré dans une forme d'addiction à une chose ou une autre, ou que vous voyez que votre entreprise veut prendre en charge votre vie personnelle, partie de votre vie personnelle, et ça peut être le cas, parce que plus qu'on ne le croit, peut-être vous avez ça dans parmi vos collègues, certains n'ont d'autres amis que leurs collègues. Parce qu'ils ne connaissent pas Paris, parce qu'ils viennent de la province, parce que, etc., etc. Ils ont d'autres amis que leurs collègues. Donc ils continuent après le travail, ils continuent encore avec les mêmes personnes. Et beaucoup de là où se forment beaucoup de couples, c'est dans le monde professionnel. Parce que vous passez plus de temps avec vos collègues que vous n'en passerez avec votre conjoint. Oui, c'est évident. Et donc, forcément, il y a des amitiés et plus si affinités qui fait que vous avez... Voilà. Et donc, c'est intéressant de prendre conscience de cette... Parfois, c'est des mesures qui fait que ça déborde, mais trop dans... et je pense que, par exemple, une manière, pour offrir une solution, mais là aussi, vous n'êtes pas forcément être obligé d'être copain de vos collègues. On n'est pas forcément obligé de s'inviter les uns chez les autres, de boire après le travail ensemble, etc., l'after work, etc. Sentez-vous libre. Alors parce qu'aussi, il y a parfois une forme de « oui, mais lui, il ne fait pas ceci, on se compare et donc on parle mal de toi. » Mais c'est là où il y a une liberté. Vous avez aussi votre vie privée, que n'ont peut-être pas d'autres ou pas autant que vous. C'est aussi les symptômes d'un déséquilibre, c'est au plan aussi émotionnel. C'est l'épuisement émotionnel. C'est-à-dire, vous sentez que parfois cette absence de joie, cette absence d'entrain, c'est l'aspect affectif qui est sollicité avec des ascenseurs émotionnels. L'épuisement se traduit parfois par une absence d'énergie dans le travail, une carence dans la volonté, une absence de motivation. Voilà. Vous sentez que... vous êtes parfois dans l'incapacité d'accomplir des... parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il n'y a pas une harmonie, il n'y a pas un équilibre. Derrière ça, ce déséquilibre, c'est au fond une forme de maladie du don. Parce que le travail, c'est aussi se donner. Le travail, c'est se donner, une maladie du don. Et vous vous rappelez, j'en ai parlé dans ceux qui n'étaient pas là pour le burn-out, mais vous vous rappelez, vous pouvez regarder, mais il y a un moteur, le don est un moteur à trois temps. Le don pour soi, Le don, c'est-à-dire on reçoit de quelqu'un pour soi, le don de soi pour quelqu'un d'autre, et le don à soi. C'est-à-dire, le don à soi, c'est on assimile, on prend le temps de dire ce que j'ai reçu, je le fais mien. C'est pas juste recevoir et repartir, il y a c'est comme une vasque, si on veut prendre un exemple. Vous recevez voilà, de l'eau, il y a une vasque qui fait que ça se dépose, et ensuite, du trop-plein, ça se déverse sur d'autres. Mais la question, c'est que quand on est dans une maladie du don, et ça peut être dans tous les domaines, dans les associations, dans la vie religieuse, dans la vie professionnelle, etc., dans la vie amoureuse, c'est qu'il n'y a plus de vasque. C'est-à-dire que je reçois, je donne, je reçois, je donne. À un moment donné, il n'y a plus de moment où ça repose, où on peut décanter, où on peut s'assimiler, faire sien ce que l'on a reçu. Hein, c'est ce qu'on appelle le don à soi. Et du coup, déjà, il y a une partie de la réponse hein, dans ces trois phases du don hein, qui sont faites là. Et donc, le fait de vivre un déséquilibre, une immaturité entre vie perso et vie pro, c'est déjà un signe d'une maladie du don. Maladie du don qui peut se retrouver dans d'autres aspects de votre vie. Hein, faites toujours, pardon de répéter, mais tout est lié. Nous sommes une unité. À mes corps, mais pas seulement. Nous sommes les mêmes à la maison, au travail, en famille, avec les amis, etc. C'est la même personne. Voilà. Donc, soyez attentifs de voir est-ce que cette maladie du don, au fond, n'est pas. Est-ce que vous ne courez pas d'amitié en amitié, la peur de l'agenda vide. Évidemment, ça veut dire un rapport au temps qui n'est pas équilibré, quand vous n'arrivez pas à vivre de façon assez harmonieuse, vie pro et vie perso. Il y a un rapport au temps, il y a une surchauffe du temps, il y a une condensation du temps. Vous mettez, c'est ce qu'on appelle l'activisme, qui est aussi une qui est très important, activisme et perfectionnisme, c'est des maladies spirituelles. Donc le perfectionnisme, c'est jamais assez bien, etc. L'activisme, je n'en fais jamais, je pourrais en faire plus. Je mets dans 24 heures plus que 24 heures. Mais à tous les niveaux. Ça peut être au niveau SPI, parce qu'à Paris, tous les soirs, vous pouvez avoir un groupe de prière, un machin, etc., de trucs, etc. Vous pouvez avoir des quantités de choses extraordinaires. Hein, donc, du coup, si je n'arrive pas à limiter et à laisser on va parler du repos comme un lieu justement d'équilibre, des temps où off, des temps où je vais pouvoir décanter ce que j'ai reçu, évidemment, on ne va pas aller dans un équilibre personnel, dans une maturité. Donc, la question du rapport au temps est centrale dans cet équilibre pro et perso. C'est vraiment, c'est central. Parce que c'est central dans notre vie. Toute notre vie, par définition, est un rapport au temps, hein, comme aussi c'est un rapport à la matière. Voilà, donc, autre point, qui est un symptôme aussi de dysfonctionnement, c'est des symptômes somatiques, c'est-à-dire liés au corps, où vous voyez que vous êtes en surchauffe au point professionnel, vous n'avez pas votre partie affective qui vous est donnée par vos amis, votre famille, etc. Et donc le corps réagit hein, par des angoisses, des milliers de l'eczéma, etc. Toutes les maladies psychosomatiques, tout simplement. Hein, ensuite. Un autre point aussi qui peut être signe de cette tension, c'est la diminution de l'accomplissement professionnel. C'est-à-dire que la personne elle-même, ça touche à la personne elle-même, la personne se convainc de son inaptitude, de son incompétence, une impression d'échec. Et ça, je pense que c'est aussi un signe où on voit que la vie pro et la vie perso ne sont pas à raccord, parce qu'il y a une sorte de dépersonnalisation. Je suis ni satisfait dans ma vie perso, ni satisfait dans la vie pro. Et voilà, être attentif au autre point dans les symptômes, être attentif aux signaux faibles qui viennent de la part de vos amis, de vos familles ou de votre partenaire si vous êtes dans une relation amoureuse. Hein, c'est des signaux faibles, on ne te voit plus. On te sent fatigué, on sent que voilà, tu es d'une certaine triste alors que tu es de tempérament joyeux, etc. Des petites choses qui viennent, pas forcément importantes, mais deux, trois, et répété par des gens d'horizons divers et qui vous le veulent du bien. Ce sont des personnes qui vous aiment. Et du coup, vous dites, tiens, au fond, les signaux qui me sont envoyés, tiens, c'est plusieurs personnes qui ne se connaissent pas entre elles qui me disent la même chose. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas un warning et un réajustement entre pro et perso à établir? Des signaux au plan des symptômes spirituels aussi. Il y a des symptômes spirituels où la spiritualité, qui fait partie de la vie perso, elle est un peu en dégringolade, quoi. On sent que la vie de prière, alors que j'avais une vie de prière assez habituelle, par exemple, où volontiers je méditais sur la parole de Dieu, où je lisais j'ai une application sur l'évangile, etc., au quotidien, ou quoi qu'est-ce, vous sentez que, tiens, ça fait plus. Alors, avant, je faisais une retraite une fois par an, maintenant, ça fait 3-4 ans, j'en fais pas. Tiens, au niveau de ma vie prière, je confiais ma journée au début, maintenant, je le fais plus. Des petites choses comme ça, qui vous. Alors, vous savez, la vie de prière, ou la vie spirituelle, c'est jamais des grands trucs, c'est juste, c'est que petit à petit, vous sentez, de façon imperceptible, comme ça n'a pas de conséquences, c'est que personnel, et que les autres ne le voient pas, vous n'allez pas vous rendre compte que, progressivement, votre vie spirituelle, elle s'étiole, elle prend moins d'importance, elle diminue en intensité. Mais c'est progressivement. Hein, mais ce manque de vie spirituelle, évidemment, va faire que vous n'avez plus de lieu de ressourcement. Parce que cette vie spirituelle, c'est aussi, ça fait partie des vasques qui nous sont donnés pour pouvoir refaire nos forces. Donc je trouve que c'est intéressant de se dire, tiens, comme symptômes, des symptômes spirituels, etc. Les solutions, maintenant que vous voyez les symptômes, vous voyez les causes, etc., les solutions. Réagir à temps pour éviter le burn-out. Oui, ça c'est sûr, réagir à temps. Quand vous sentez les signaux, quand vous voyez les signaux dont j'ai parlé là, dans la deuxième partie, les symptômes d'un dérèglement, prenez ça au sérieux. Le burn-out, ça ne concerne pas que les autres. Un burn-out, j'allume la voiture, je tourne la clé dans le contact, clac, pas de batterie, c'est ça le burn-out, c'est plus de batterie, c'est fini, le matin je ne peux même pas me lever, c'est ça le burn-out, j'y arrive pas. Donc quand vous sentez de la fatigue extrême, quand vous sentez, et le corps est un pédagogue, et donc quand vous sentez que votre corps ne répond plus, dites-vous, de façon affirmative, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon rapport entre vie pro, vie perso. Le curseur n'est pas au bon endroit. Donc, ensuite, c'est savoir s'octroyer un certain nombre, évidemment comme solution ou remède, s'octroyer des pauses. Alors, la sieste, moi, il y a un candidat au présidentiel qui a comme seul programme la sieste boulot. Mais il faut les lire tout de suite. S'il n'y a que ça dans son programme, mais si vous pouvez, alors il y a des entreprises qui acceptent de faire la sieste, il y a d'autres où c'est pas, mais le fait d'une sieste, d'un repos, d'un temps de repos, etc., prévoyez vos temps de repos. Questionnez-vous, qu'est-ce qui me repose au lieu de jouer le hamster dans la roue et entre tension et détente avec de l'alcool ou quoi qu'est-ce. Qu'est-ce qui me repose? Qu'est-ce qui refait mes... C'est pas facile à savoir. Moi, j'ai mis des années à savoir ce qui me reposait. C'était pas facile. Hein. Bon, moi, ce qui me repose, c'est l'eau, donc me baigner, etc. Ensuite, c'est le soleil. Et c'est le silence, la solitude. Je vis en communauté, donc le fait d'être en silence, solitude, au soleil, voilà, ça c'est mon truc, c'est simple, c'est pas cher, etc. Je ne sais pas tellement, je ne vous demande pas un 5 étoiles, je ne sais pas où, à Ibiza ou ailleurs, surtout Ibiza, bon, c'est un peu olé, olé, voilà, bon, bref. Donc, bon, voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous repose? C'est ça, posez-vous la question. Qu'est-ce qui refait mes forces? Mais profondément, je veux dire, qu'est-ce qui... Là, je vous ai cité des choses toutes simples. Hein, et du coup, Voilà, c'est ça, orienter mes vacances. On a 15 jours de vacances dans la communauté. Voilà, on a, voilà, je sais où prendre mes vacances, ou pas les prendre, par exemple. Donc, du coup, c'est intéressant de... Voilà, de, qu'est-ce qui vous repose, qu'est-ce qui refait. Et de laisser, je pense, comme solution, de laisser des temps vraiment off, de laisser des soirées. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes vos soirées. Vous n'êtes pas obligé de ça, vous ne sentez pas obligé de vraiment de lancer des temps off. Que dans l'agenda, il y ait des temps, voilà, de... d'ajustement, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui passera, quelqu'un ou tout simplement être là pour soi, se détendre, lire, regarder une série ou quoi qu'est-ce, voilà. Donc, mais je suis vraiment étonné de voir l'importance, hein, de cette dimension on peut dire, comment on peut dire ça, oui, spirituelle, de repos, de et voilà, c'est... Par exemple, je suis très étonné, vous voyez, et c'est un signe des temps. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Petit Bambou. Il y a Petit Bambou, 2 millions qui ont chargé l'application. Petit Bambou, c'est tout un univers zen. Tout, quoi. Alors, tu t'écoutes ton corps, je ne vais pas télécharger, enfin, je télécharge, mais tu écoutes ton corps. Mais non, mais c'est très bien. Non, mais si ce n'est que c'est il y a zéro verticalité. C'est toi, moi, je, moi. Donc, du coup, j'écoute ma respiration. Donc, t'as tout univers zen, t'as des trucs dans les oreilles, t'as des petits bruits d'eau, etc. Et tout ça. Bon, pourquoi pas. Mais 2 millions de personnes en France qui ont téléchargé ça, c'est énorme. Ça veut dire que... Ou la méditation de pleine conscience. Ça veut dire que il y a un vrai besoin dans nos sociétés d'une dimension contemplative qui, en l'espèce, n'est pas religieuse. Oui, là, il n'y a pas que la dimension. Il y a des dimensions contemplatives qui ne sont pas toujours religieuses. Là, par exemple, c'est un exemple. Hein? Mais ça veut dire que nos contemporains, et moi qui vis dans une communauté ou un lieu d'accueil spirituel, dans une abbaye, voilà, on sent des demandes, c'est tous les jours. Tous les jours. De gens croyants ou pas. C'est étonnant aussi. De gens qui demandent juste du silence, de la solitude. Et qui vit une vie simple, voilà, on a zéro luxe, on est tout simple, voilà, c'est... mais ils veulent se retirer du monde, ils veulent le calme, le silence, la solitude, la prière, s'ils sont croyants, même s'ils ne sont pas croyants, ils participent aux offices, voilà, c'est... on sent ce besoin d'une dimension contemplative, hein, parce que ça, c'est juste un besoin humain, c'est juste un besoin humain, c'est de s'arrêter, de contempler, de faire sien, de laisser décanter, etc., c'est juste humain. Et le flux tendu est inhumain. Je reçois, je donne, c'est inhumain. C'est pas humain. Bon. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Bon, c'est cette question de voir ce désir de nombre de personnes d'avoir des pauses, d'avoir aussi une manière de résoudre, c'est prioriser les tâches. Hein, vous connaissez... La question des gros cailloux, ça vous dit quelque chose, des gros cailloux ou pas? Ouais, c'est bon, vous connaissez. Tout le monde, il y en a qui ne connaissent pas, les gros cailloux. Vous ne connaissez pas? Oui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc il y a un professeur qui arrive devant les élèves, etc. Il dit, il arrive avec un seau, avec du sable, de l'eau, du gravier et des gros cailloux. Et il dit, tout doit rentrer. Et du coup... Il y en a qui disent, ben voilà, on va mettre d'abord le sable, on va mettre d'abord le gravier, on va mettre l'eau, et ensuite on va mettre les gros cailloux. Mais c'est simplement que quand on fait comme ça, tout ne rentre pas. C'est que c'est les gros cailloux, c'est le début. D'abord les gros cailloux, dans les interstices rentre le sable, etc. Voilà, et là tout rentre. C'est de façon imagée, les gros cailloux, c'est quoi? C'est mes priorités. C'est quoi vos priorités dans une semaine? Cette semaine, bon. Évidemment, une priorité, c'était d'être ici. Mais est-ce que vous posez, je dis, c'est quoi ma priorité ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ce mois-ci? Il y en a trop qui vivent par procuration, qui laissent d'autres décider. Par manque de confiance, par le fait d'être influençable, etc. Non. Qu'est-ce que vous voulez vivre là, ce mois d'octobre, au niveau amitié, au niveau familial, au niveau découverte de la nature, au niveau culturel, spirituel? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Quels sont les gros cailloux qui vous parlent et qui vous disent, tiens, ça, j'aimerais... Il n'y en a pas 15, il y en a 2-3. Voilà, j'ai 2-3 trucs, qui, ça me semble... Ça, c'est important. Ça va vraiment être important. Oui, mais rien de se poser comme ça. Moi, ma religion, c'est la religion de l'agenda. Oui, donc, du coup, je prends mon agenda, je n'ai pas mis à l'électronique, justement. Je regarde l'agenda, machin, papier, et puis je dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Bon, voilà. Et je pense que, parce que c'est des demandes, il y en a toujours. Imaginez bien, comme prêtre, ça ne cesse. Ça, voilà. Dire non à des demandes, bon, dire non. Discerner. D'où, ça veut dire, pro perso, c'est la question du discernement. Hein, la question du discernement qui se pose là. Donc, c'est intéressant de se, petit à petit, dans les solutions, de s'orienter en priorisant vers une vision organique de sa vie, de découvrir que tout est lié et que, voilà. Hop, hop, ça c'est bon, les gros cailloux, c'est bon, hop, 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 c'est fait, ça. Oui. Si vous êtes dans la posture de manager, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui, somme toute, sont en responsabilité. Montrez l'exemple. Partez tôt, par exemple. Non, c'est vrai, ça peut être un exemple. Hein, développer un management bienveillant, j'ai fait tout un topo sur le management bienveillant aussi, c'est le site de SPSP, ben, parce que c'est enregistré les topos, donc voilà. Baser plus sur un management basé plus sur les talents et pas seulement sur les objectifs. Bien sûr qu'il y a des objectifs, c'est même pas un sujet. C'est juste comment atteindre ces objectifs, soit à la pression, etc., soit en développant les talents. Et donc, c'est sûr que comme manager, si vous êtes en responsabilité, hein, vous déjà, comment vous pratiquez cette séparation, comment vous vous ressourcez, comment vous vous formez, etc. Et ensuite, comment vous permettez à ceux dont vous avez la charge, hein, voilà. Ensuite, autre point qui, comme solution pour travailler sur votre culpabilité. Travailler sur la culpabilité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui parfois nous habite et qui, voilà, qui nous joue des tours aussi dans la vie professionnelle parce qu'on n'ose pas dire non. En amour comme au travail, la relation fusionnelle est toxique. Et oui. Le fusionnel, c'est pas de distance. On ne fait qu'un, etc. Forcément. Et on n'est pas un. Et on n'a pas à devenir un. Et il y a des entreprises très corporate, etc., qui, moi je me rappelle d'avoir travaillé dans des cabinets d'audit américains, etc. Si tu voulais dormir là, on t'installe une douche et un lit de camp, il n'y a pas de problème. Il fallait que ce qui émanait, c'est que quand même quelque part un don absolu à l'entreprise, quoi. En tout cas, je l'avais ressenti comme ça, etc. Donc ça, c'est toxique, hein. C'est travailler une certaine distance, hein, par rapport à son travail. La maturité passe aussi par la désillusion. À un moment donné, on est déçu de son travail, mais je pense que c'est une étape indispensable pour mûrir. Le fait d'être déçu, vous aviez mis au début de votre vie pro peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiative, beaucoup d'enthousiasme, etc. Et puis, c'est assez fréquent, il y a quelque chose qui vous déçoit. Dans le travail, il y a des personnes qui vous déçoivent, parce que vous ont manipulé, etc., ou se sont appropriés votre travail pour elle avancer. Bon, ça c'est la vie professionnelle aussi. Il y a peut-être des réactions de collègues qui vous déçoivent, etc. Bon. Mais je pense que ça fait partie de cette déception. Ayez un regard positif là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui contribue aussi à votre maturité, qui contribue à mûrir ce lien entre vie pro et vie perso. C'est justement faire descendre le travail de son piédestal. Hein, parce que quand on débute, rappelez-vous, vos débuts de vie professionnelle, c'était forcément, on sort des études, etc., bon, de je sais pas combien d'années entre les primaires, collèges, lycées, études supérieures, etc., enfin on arrive à la vie pro, enfin on gagne sa vie, on a une indépendance, etc., bon, il y a une exaltation, ce qui est énorme, qui est bien, Mais du coup, cette étape de déception, je trouve que je la vois pas comme négative. Je la vois comme un lieu où vous allez pouvoir,
ça demande une relecture. La relecture fait partie aussi de la maturité. Je relis, tiens, pourquoi j'ai été déçu ?
D'où un accompagnement avec quelqu'un qui est né dans la foi. Voilà, un accompagnement, je veux dire, c'est des coachs aussi qui vous aident aussi. Bon, il y a tout un. Et ça, je trouve ça c'est intéressant aussi, ça s'est beaucoup développé, ça. Tout le coaching, l'évaluation des compétences, bilan de compétences, etc. Bon, mais c'est intéressant. Tout ça, ça n'a pas une dimension religieuse, mais c'est de l'ordre de l'accompagnement et c'est très intéressant. Hein, donc du coup, de dire, mais pourquoi j'ai été déçu, etc. Et puis, résoudre, si finalement, vous avez mis en place toutes ces choses-là, etc., vous voyez que ça ne marche toujours pas, il y a toujours la démission. La démission, bon, c'est un peu carré. Bon, si vous sentez que votre travail est toxique, à différents degrés, etc., ben vous dites, ben, c'est peut-être pas fait pour moi. C'est pas moi qui suis appelé à ce travail. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Alors, est-ce que maintenant, c'est le temps des questions ? Il faut bien parler près du micro, si vous pouvez passer peut-être... Oui. Oui, alors ça c'est le fait. Oui, mais je ne dirais pas que c'est un métier vocation, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut très bien ne plus faire la différence. Parce qu'il y a une forme d'engouement, de rouage qui se met. Si je ne suis pas arrivé. À prendre une distance, on ne voit plus même la réalité des choses. Hein, c'est le fameux cas là, de comment il s'appelait là, qui a Père Kerviel, le cas Kerviel. Mais c'est intéressant. Pour lui, 5 milliards, il appelle 5 milliards, c'est comme toi, tu vas acheter une baguette. Il n'y avait même plus. On perd la notion quand tu sens que tu es déconnecté. Et ces métiers-là dont tu parles, c'est des métiers où on peut vite être déconnecté. Comme les métiers de la politique aussi, on peut être vite déconnecté du réel. Hein, parce que donc, s'il y a des métiers, il faut peut-être plus d'attention, il faut peut-être plus d'avoir quelqu'un, d'où un accompagnement, quand on a des métiers comme ça qui sont compliqués, où on peut être vite déconnecté du réel. Ce que je conseille, c'est bien qu'il y ait des personnes qui ont la foi et qui ont la foi, qui veulent, en tout cas, le désir de construire une société juste et fraternelle, qui soient dans ces métiers-là, c'est important, mais que ne restez pas seul. C'est juste faites-vous accompagner, que quelqu'un vienne vous questionner, vienne vous sortir de votre zone de confort, et où est-ce que tu en es par rapport à ceci, par rapport à cela, étant donné ton métier. Ah oui, certainement. Alors, le rapport au temps, moi qui habite la province et qui habite au milieu de nulle part, il y a où 200 habitants, il y a les moines et les sangliers. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment très, très dépaysant. Mais c'est sûr que le rapport au temps en province n'est pas du tout le même. Ça, c'est évident. Donc ça peut être aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas vu comme solution, si votre entreprise vous propose... C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Et c'est vrai qu'il y a un effet parisien qui est très prononcé. Je veux dire, dans cette condensation du temps, dans cette accélération, il y a quand même un effet très parisien, qu'on ne retrouve pas même dans les grandes métropoles comme Lyon, Lille, Marseille, etc., qu'on ne retrouve pas du tout de la même manière.
Bonjour, Père. Je suis en train de me demander si vous êtes vraiment...
témoignage. Ah oui, ce que j'ai fait avant. J'ai fait une école de commerce, une licence en sciences éco, et ensuite j'ai travaillé chez Arthur Andersen, qui est un cabinet d'audit américain qui s'est cassé la figure depuis, ce qui est assez intéressant, c'était le plus du plus, etc. Et finalement, ce que j'ai fait avant, c'est ça. Et du coup, j'aime beaucoup le monde de l'entreprise. J'aime beaucoup le monde de l'entreprise, je trouve ça un monde passionnant, parce que c'est un monde de personnes humaines, d'hommes, de femmes, etc. Je trouve ça vraiment un monde passionnant où il y a de très belles choses à vivre. J'aurais pu avoir 1000 vies, moi, je pense, mais je n'en ai qu'une, et j'ai choisi celle-ci. Et voilà, et donc c'est ça qui me fait connaître et me tenir au courant, et lire et me former. Et puis l'accompagnement aussi de beaucoup de cadres, de beaucoup de personnes qui sont dans le milieu professionnel, qui font que je connais bien la question de l'intérieur.